Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro hors-série de La Terre à Boire. Après avoir parcouru et chroniqué les films qui parlent de vin, c'était notre premier hors-série, Cépage en images, et c'était l'occasion de recevoir nos amis podcasteurs de OZEF, le podcast, et aussi de Parlons Péloche. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet tout autre, puisqu'il va s'agir d'économie, et même de ce qu'on appelle parfois la nouvelle économie. C'est un peu suranné comme terme, mais ça existe encore. Et oui, comme vous le savez, la Startup Nation est en marche, et bien entendu, le vin, domaine d'excellence française, s'il en est, n'est pas en reste pour ce qui est de proposer des innovations, pour disrupter l'économie, ou tout simplement pour vous permettre à tout moment de trouver le vin que vous souhaitez et vous le faire livrer chez vous. C'est ce qu'on appelle la Wine Tech, et nous avons invité pour en parler deux acteurs importants de ce mouvement. Bonsoir Erwan de Barry.
Bonsoir.
Erwan, tu es le fondateur de Twill, autrement dit The Wine I Love, une start-up qui propose aux consommateurs de commander directement auprès des producteurs. C'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
On va y revenir, bien entendu. Ça va bien, ça t'ennuie pas de faire des heures sup vendredi soir pour aller dans des podcasts ?
Le contexte est plutôt sympa.
Ouais, le contexte, c'est le bar, le RAD d'Aidé la Frite, le RAD que nous a déniché l'équipe, évidemment, de Danton RAD. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop mal. En fait, on est à l'étage là. Ça parle de podcast quand même beaucoup hein, autour de nous. Ça fait même un peu trop de bruit. On va quand même essayer de faire une émission sérieuse, un peu sérieuse. Erwan, je suis très heureux de te présenter notre autre invitée. Alors, elle n'est pas dans la wine tech, mais figure-toi que le futur est sa spécialité. Vous êtes déjà dans l'économie du futur. Ben, le futur, c'est son quotidien. Elle produit, elle anime un podcast. Qui est incontournable aujourd'hui, qui s'appelle Hashtag 2050, et elle se projette chaque semaine avec un invité différent en 2050, donc pour envisager les évolutions, les bouleversements qui nous attendent. Je veux parler bien sûr de Rebecca Armstrong. Bonsoir Rebecca.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Quel plaisir de t'avoir.
Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là.
Merci d'avoir quitté ta Normandie.
Et oui.
Voilà, pour venir dans la capitale.
C'est ça.
Pour parler de WineTech avec nous. Moi je me suis dit que c'était le thème qui collait le plus.
Mais oui, parler WineTech c'est forcément parler un peu du futur. Donc je me suis un peu rencardé et tout, j'ai un peu bossé pour pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice.
Ça m'étonne pas, le travail, ça s'entend quand on écoute ton podcast. Moi ce qui m'épate dans ce que tu fais, c'est la diversité des thèmes. Alors il est souvent question évidemment des questions environnementales, la question de l'eau, du changement climatique, des technologies vertes, mais pas que. Dans les épisodes récents, le sujet des frontières aussi a été abordé en compagnie de l'écrivain Michel Bussy. C'était un épisode vraiment passionnant. Encore la question de l'école, des médias, de l'entrepreneuriat, et même un épisode sur le plaisir féminin, la projection dans l'avenir. Alors moi j'ai une petite question introductive. Comment tu choisis tes sujets ? Est-ce que c'est un plan bien établi, tu as fixé les thèmes pour 6 mois à l'avance et puis après tu cherches les intervenants pour t'en parler, ou c'est plus au gré de tes rencontres que ça suscite l'idée d'un épisode?
Mais le concept, c'est vraiment l'invité qui choisit son thème, parce que l'exercice de la prospective, de se projeter, même si 30 ans c'est pas si loin, c'est vraiment pas évident. Donc l'idée, c'est vraiment mon invité. Quand je contacte une personne, je lui dis voilà, j'aimerais bien vous avoir dans mon podcast. Je lui laisse vraiment le choix de l'épisode, et à chaque fois moi je m'adapte dans la conversation au sujet que la personne a choisi.
Bah, c'est ce que tu vas faire ce soir finalement.
Exactement.
Tu vas t'adapter dans une conversation autour du vin.
C'est ça.
Je fais confiance. On a aussi autour de la table un autre wine techie, je ne sais pas comment il faut dire, Thomas Chauveau, tu es, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es social media manager d'une autre entreprise de la wine tech qui s'appelle Aven.
Tout à fait.
Et vous êtes plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle l'internet des objets. Vous avez un produit révolutionnaire.
Un aérateur de vin connecté. Pour aérer le vin de façon précise et instantanée.
C'est l'aérateur qui est connecté, pas le vin. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Pour décanter le vin au fur et à mesure qu'on le verse, c'est ça ?
Ouais, en fait, c'est un verseur, c'est pour permettre d'aérer de façon instantanée au moment où celui-ci traverse l'objet. Donc pour ça, il est connecté à une application qui vous scanne l'étiquette avec l'application et automatiquement avec nous on propose une aération optimale, et avec la connexion entre l'application et l'appareil, vous n'avez plus qu'à verser en fait à l'aération optimale. Mais vous pouvez régler selon vos préférences également.
Bon, on va y revenir bien entendu, mais là on est déjà dans un aspect très technologique et physique, un objet, ce qui est un peu différent de tout ce qui est vraiment complètement dématérialisé. Là, on a vraiment un objet à vendre. Autour de la table, bien sûr, les chroniqueurs de la Terre à Boire. Patrice Defay, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, t'as révisé la WineTech, c'est bon ?
Un petit peu. Je vais faire comme Rebecca, je vais m'adapter.
Tu vas t'adapter ?
Voilà.
Tu t'adaptes bien en général. Philippe Viette, bonsoir. Oui, récupère un micro, c'est mieux.
Je récupère un micro pour dire bonsoir à tout le monde.
Voilà. Bonsoir, je vais pas te redemander si la taille dans les vignes, il fait froid, ça se passe bien.
Ouais, ça se passe toujours bien.
Mais je pense que t'es pas mal dans un café parisien.
Voilà, pour la Wine Tech, là, ce soir, je vais remettre ma casquette de consultant.
C'est ça, horreur, horreur. Mais pas n'importe quel consultant. La Wine Tech, c'est un sujet qui t'intéresse un peu plus que les précédents sujets des consultants.
Hein, absolument, absolument.
Bien sûr, je n'oublie pas, on a un fil rouge de cette soirée podcast qui va donner quelques hors-série. C'est la participation de la Pim Pam Poum Company, les incontournables, les stars du podcast parisien.
Au moins la moitié en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il faut savoir que t'as payé que pour un seul consultant, donc tu as qu'un seul consultant.
Pas les moyens à la prod.
Voilà, bien sûr.
Que veux-tu ? Puis vous êtes tellement cher.
Mais c'est
depuis
ça,
que vous avez remporté le Podcast EO Award.
Après, la qualité des conseils, surtout dans la Wine Tech, tout ce qui est méthode de croissance rapide, incubateur, tout ça.
Oui, c'est ça.
N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous demander, hein. Il n'y a pas de problème.
Oui, le talent se paye.
Mais preneur, hein.
Je m'étais
des
noté,
stations F à mort.
Je m'étais noté, je ne sais pas trop si Pim Pam Poum va avoir des choses à dire sur la Wine Tech, parce qu'ils sont un peu bloqués dans les années 80, mais peut-être pas.
En tout cas, on a le mérite de se poser des questions, donc peut-être que je les poserai tout à l'heure.
L'important, c'est que la cravate soit toujours impeccable. Et je te confirme que
ça va te connecter à mon col de chemise.
C'est pas mal. On va y aller. Ce hors-série numéro 2 s'intitule Do You Wine Tech ? Bienvenue dans la Terre à Boire. Voilà, je l'ai déjà dit 10 fois, mais je vais le répéter. On va être très, très, très sérieux peut-être dans cette émission. Alors, on va commencer par se projeter dans l'avenir avec justement cette participation de Pim Pam Poum qui nous donne un petit peu sa vision de l'avenir en matière de vin.
Bah nous, on utilise le passé, hein. C'est un peu la base pour penser l'avenir. Je pense que Rebecca ne me contredira pas là-dessus.
Non jamais, voilà. Jamais je ne vous contredirai, monsieur.
Voilà. Merci. Voilà. Très, très dur à dire ce mot. Hein. Un podcast, il faut l'éviter. Hein. Faut dire, voilà. Tu es d'accord avec moi ?
Je suis toujours d'accord.
Non, moi, je me pose des questions par rapport au titre du podcast. Parce que, bon, la terre à boire, d'accord, mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Hein, ça c'est une première question qu'on se pose. Est-ce que c'est raisonnable alors que le réchauffement climatique fait monter le niveau de la mer et a donc pour conséquence de raréfier cette terre, hein, donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire avec la terre? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une autre utilité à cette terre souffrante? Comment est-il techniquement possible de boire la terre? Doit-on humidifier la terre avant de la boire? Je ne sais pas où je vais avec ces questions.
Nous non plus.
Mais en tout cas, la Pim Pam Poum Company, nous sommes soucieux des problématiques environnementales. Ça fait de plus belles lurettes qu'on a des gestes éco-responsables. Par exemple, un petit tip comme ça. Hein. Ça fait longtemps que nous faisons plus d'espace entre les mots dans les mails pour réduire un peu la zone d'impression. Donc c'est des petits gestes simples hein, comme ça qui sont à la portée de tout le monde. Voilà, donc après revenons à notre problème, hein, si tu veux bien.
Oui, écoute.
Moi, j'aurais le mérite de poser des questions, après vous irez, les professionnels iront. Vous
avez préparé des petits habillages sonores, des trucs comme ça là.
Ouais, aussi, ouais.
Bonsoir les grands gourmands, nous sommes bien contents ce soir de vous accueillir pour une nouvelle émission. Je dis nous bien sûr parce que à mes côtés il y a Madeleine. Bonsoir Madeleine.
Bonsoir Jacques.
En pleine forme ce
mais
soir.
Bien sûr. Mais
tant
oui.
Mieux. Vous nous proposez ce soir encore une nouvelle recette bien française.
Franc-comtoise également. Alors le coq au vin.
Je disais bien française parce que le coq et le vin sont un petit peu les emblèmes de la France. Alors il nous faut Madeleine pour faire cette recette.
Alors un coq de 2,5 kg environ.
Un vieux coq de basse-cour.
Oui. Une année.
Oui.
Un peu d'huile.
Alors nous avons pris un vin rouge.
Oui.
Je vous le rajoute même. Un vin rouge, un petit vin de Bourgogne. On peut prendre un vin de Franche-Comté.
Alors pas trop.
Pas trop à la fin. Alors là, ça épaissit. Vous avez laissé le morceau de lard au fond.
Oui, mais je le retire.
On le retirera par la suite.
Oui. Voilà, vous pouvez continuer.
Est-ce qu'on met, donc il n'y en a pas tout à fait un litre, on mettra tout
75, mais c'est suffisant. Si vous pouvez tout mettre, oui.
Il faut être à deux pour faire ça, parce que vous ne pouvez pas tourner.
Il faut être à deux.
C'est pas souvent, c'est je pas travaille à deux.
C'est pas un plat pour un célibataire, ça. Il faut le faire en famille et le manger en famille.
Nous allons verser les morceaux.
Et et la tête et la tête et le bec et le bec. Et comme ça,
oui, alors les assaisonnements,
le
vous plaît, vous me passez
c'est même pas
l'oignon,
d'accord,
les épices,
le laurier, le thym, tout ce qu'on a précisé au début de l'émission,
le persil,
j'ai l'impression d'être un infirmier avec le chirurgien là. Madame, vous voyez qu'avec un peu de patience, tout s'arrange, il n'y a plus de brumeau dans votre sauce.
Non, la sauce est bien déliée.
Merveilleuse.
Voilà, c'était, je crois que c'était un son d'avant Maïté. Donc c'est même.
Pardon. Voilà,
ça, c'était avant Maïté et les fameuses recettes, c'était
c'est
ça, encore
ouais,
avant.
C'est
ça,
c'est je crois que c'est L'Écran Gourmand ou quelque chose comme ça. Non, c'est une émission des années 80.
Ah, des années 80, pas avant.
Seulement. C'est mais extrêmement... Madeleine était au top dans les années 80.
Ah bah ouais, j'aurais dit plutôt les années 60.
Ouais, mais non.
C'est là où tu te trompes.
C'est le présentateur Jacques Pathé qui
donne, ouais.
Ça s'invente pas. Hein.
Non, ça s'invente pas. En tout cas, c'est une excellente introduction hein, pour parler du futur.
Ça pose des bases.
Le coq au vin. Alors, Thomas, Erwan, Rebecca, on a un peu de pain sur la planche parce que la wine tech c'est extrêmement large. Alors, je vous propose qu'on essaye de décomposer le sujet. Avant de le décomposer, on va parler déjà du sujet dans son ensemble. En fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a une association qui regroupe un certain nombre des acteurs de la wine tech, qui s'appelle tout simplement la wine tech, un peu sur le modèle de la French tech, hein, dont on a beaucoup entendu parler, voilà, qui a été beaucoup poussée comme une marque à l'international pour dire, ben voilà, il y a des jeunes pousses françaises qui font des choses intéressantes. Et l'association, donc la wine tech, qui est vraiment spécialisée sur le vin, qui regroupe environ 40 startups.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Qui font du B2C, du B2B, c'est-à-dire qui s'adressent directement aux consommateurs, qui sont des outils plutôt pour les professionnels, dans tous les domaines. Ça va de la gestion de la cave personnelle. Il y a des boîtes qui font du troc de grands crus, en passant par le crowdfunding pour financer des domaines viticoles. Il y a aussi le no-tourisme qui est représenté dans les startups. Et même, j'ai vu une boîte qui est spécialisée dans les rencontres amoureuses à travers le vin. Tu aimes le vin, j'aime le vin, rencontrons-nous. Voilà, donc c'est extrêmement large. Ça va être difficile de tout traiter. Moi, je vous propose qu'on adresse trois grandes familles de start-up. La première, c'est la distribution. On va le dire, c'est le moteur un peu. C'est là qu'il y a le plus d'argent d'investissement. La partie, alors qu'on appelle peut-être à tort les IA, les intelligences artificielles qui vous aident en fait à faire tout ce qui est gestion de cave, choisir à quel moment vous buvez votre vin, quel est son apogée, on flague l'étiquette et puis on sait à quel moment il faut le boire, à quelle température et tout ça. C'est pas forcément l'intelligence artificielle d'ailleurs, mais c'est plutôt des éléments d'algorithmes qui permettent de choisir ça. Et puis les objets, le fameux internet des objets dont Aven est un des représentants. La distribution, commençons par ça. Je me tourne vers toi, Erwan. C'est le secteur dans lequel tu évolues avec Twill, The Wine I Love. On va tout de suite dire que la distribution, donc, c'est le plus important des domaines de cet écosystème WineTech. Il me semble d'abord parce que ça s'appuie sur un commerce qui existe déjà. Il y a déjà des gens qui
exactement
achètent du vin. Donc on vient proposer un autre circuit de distribution pour le vin.
C'est ça, on amène une innovation dans la façon pour les particuliers ou les professionnels de sourcer et de trouver des vins. Aujourd'hui, en France, vous avez une situation d'oligopole avec la grande distribution qui représente 80% du marché. Et vous avez Internet, donc on va dire la tech, même si il y a différents modèles dans ce qu'on peut dire Internet, qui représente 3% il y a 5 ans, 10% aujourd'hui.
Voilà. Et ça, c'est un chiffre qui ne cesse de monter. Dans un mode d'abord un peu classique, en gros caviste en ligne, hein, et tout c'était la première vague des startups qui commence déjà à dater d'ailleurs, hein, où on commençait à vendre. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont disparu, hein, Château Online,
1855.
C'est des boîtes qui étaient lancées et puis qui se sont
C'est des boîtes qui avaient des business models anciens avec des façons de commercialiser nouvelles, mais
oui,
c'était
pas adapté. Il y avait aussi des escrocs à l'intérieur. Hein,
Oui.
J'ai perdu 800 euros.
Parce que 1855, j'ai lu un papier là-dessus.
Oui,
ils ont
j'ai perdu 800 euros avec eux. C'est-à-dire qu'ils vendaient des vins qu'ils n'avaient pas en cave, en fait.
Ouais, c'est ça. Et ils les ont jamais achetés. En fait.
Ils ne
les réservaient pas.
Ouais, alors, tout à fait.
C'était les Madoff du vin, en fait.
Ouais, tu as 1855 qui a laissé une trace assez douloureuse.
800 euros pour moi.
Mais tu as aussi tout un tas d'acteurs qui étaient juste en fait des commerçants qui stockaient du vin et qui le distribuent. Et le problème, c'est que le vin, c'est un produit qui est fragile,
lourd et compliqué à transporter, donc pour du e-commerce, c'est tout de suite difficile.
Alors, c'est intéressant. Déjà, tu poses les bases des enjeux qui sont les vôtres. En termes de distribution, de ce qui, pour employer ce terme pas à la mode, de ce qui disrupte, de ce qui change un peu les pratiques, il y a eu par exemple l'apparition des box de vin. Alors, des box dans tous les domaines, hein, la beauté, les sorties.
Ne me regarde pas en disant les box de beauté.
Pas du tout. Je te regarde parce que je ne peux regarder que toi. Tu es en face de moi. Voilà, des box, on en a vu.
Il y a Vitibox, dans Petit Ballon, on est dans ce domaine-là. Ouais.
Et dans le domaine du vin, il y en a plusieurs qui se font concurrence. Le Petit Ballon, qui est peut-être la plus importante, je pense, en termes de box, moi j'ai largement, pas de chiffres, ouais. Largement, qui vient d'être acheté par Vente Privée,
exactement.
Jacques-Antoine Grandjean, voilà, un gros acteur de l'Internet marchand qui s'intéresse à un distributeur de vin en ligne. Les box, c'est pas le modèle que vous avez choisi, vous, à Twill.
Non, je pense que les box répondent à une problématique que beaucoup de clients ont, qui est comment je choisis mon vin. Et donc, je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait, mais pour moi, ce n'est pas forcément de la tech. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas remettre en cause un business model, ils vont répondre à une question que 80% des consommateurs de vin se posent, c'est qu'est-ce que je vais acheter ? Et eux, ils vont aller sélectionner et proposer des vins à partir de leur sélection.
Alors, justement, comment vous vous adressez cette nouvelle façon de vendre du vin ? Quelle est la proposition de The Wine I Love ?
En fait, l'idée de départ de Twill, elle réside dans le nom, c'est qu'on part du principe que le vin, c'est extrêmement vaste, extrêmement varié, et qu'en plus, c'est beaucoup une question de goût. Et un peu comme la musique ou la littérature, on n'a pas tous les mêmes goûts autour de cette table. Et donc, l'idée de Twill, c'était de pouvoir permettre à quelqu'un qui avait un coup de cœur pour un vin, qui avait un goût prononcé pour quelque chose, de pouvoir le retrouver avec le chemin le plus court, c'est-à-dire directement avec celui qui l'a fait. On a un peu le mythique entre le producteur et le client final.
Parce que c'est ça l'enjeu, c'est j'aime un vin, je flash l'étiquette avec mon smartphone.
Exactement.
Je peux le commander.
Ensuite, si le producteur est référencé chez nous, et ça c'est notre boulot, aujourd'hui on a plus de 2000, mais on veut aller chercher encore plus loin. Le producteur a fourni des informations. Déjà, c'est intéressant de connaître l'histoire d'un vin. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce que celui qui a fait le vin partage les mêmes valeurs que moi ? C'est aussi beaucoup une question de philosophie. Hein. Et ensuite, derrière, la possibilité de l'acheter directement. Et ça, ça a deux avantages. La première, c'est que je suis sûr de la qualité du produit. Parce que moi, j'ai travaillé à Londres pour des gros brokers de vin. Et il y a certains vins qui peuvent faire trois fois le tour de la planète. Mmh. Parce que ils vont être achetés, partir en Chine, revenir en Europe.
C'est de l'investissement, c'est pas du plaisir. Là.
Voilà,
c'est des vins qui sont jamais à bulle, en fait.
Pas forcément, c'est des vins qui sont
achetés. Quelques-uns
qui sont jamais bu, exactement.
Et on peut dire que c'est quand même pas terrible pour un vin de traverser trois fois le tour de la planète.
Non, la qualité, moi je suis toujours rassuré quand je sais que elle était juste avant dans la cave du producteur, parce qu'en général, elle est gardée à bonne température, et le vin, c'est un produit qui évolue, c'est un produit vivant, et donc c'est vachement important de bien le traiter.
Alors, ça dépend.
Il y a des vins morts.
Non, mais c'est ça. En fait, on pourra reparler de ça, mais ce que disaient les différents interlocuteurs, c'est que le SO2, le soufre, etc., qui est nécessaire au transport, fait que ça fige un peu le vin, et donc du coup, il devient transportable. Mais il est plus complètement bio. Est-ce que vous, justement, vous êtes orienté bio ou pas du tout ?
Alors,
ou pas
bio,
seulement.
Bio et sans sulfite, c'est deux choses très différentes.
Ouais. Oui, non, mais je parle de la nature du bio. Mais est-ce que déjà,
alors,
au début,
je suis. J'aime bien les vins nature. J'étais il y a deux jours à Le Cat chez un petit vigneron qui fait que du vin nature. Mais je ne suis pas un pro vin nature. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme en politique. Les sulfites, c'est une question de dosage. Et je pense que les grands vins, de toute façon, il y a des sulfites naturels dans le vin et dans le raisin. Et que mettre un peu de sulfite à la mise pour permettre au vin de justement durer dans le temps et de pouvoir se conserver.
Pour voyager.
C'est pas contre. Après, le problème, c'est que c'est comme avec tout. Quand on en met trop, on casse la chose.
Voilà. Non, mais je pense que la vraie différence qui doit mettre tout le monde d'accord, c'est est-ce que c'est un vin qui exprime son terroir ou pas ?
Exactement.
Est-ce qu'il a été buildé ou pas ? Après, tant que le maquillage maintient le côté terroir, je pense que vous êtes dans cette démarche-là.
Alors, il y a l'histoire du maquillage, et pour moi, tout se passe dans la vigne, en fait. Et plus on va faire un travail de qualité dans la vigne, plus on va avoir de sulfite naturel, et moins on aura besoin d'en mettre.
tu parles du vin, je ne l'ai pas dit en introduction, mais toi, tu viens de cet univers-là, tu es un enfant
tout
de vigneron.
En Provence.
Ouais. En Provence, de quel côté?
À côté de Draguignan, un petit village qui s'appelle Tarado. Et en plus, en Provence, on a la chance d'avoir un climat qui fait qu'on n'a jamais eu besoin de trop traiter.
Ouais.
Et pourtant, on ne revendique pas forcément le bio, parce que c'est un peu comme... pour moi en médecine, c'est-à-dire que tant que je pourrais faire de l'homéopathie pour soigner mes allergies et mes problèmes, je vais le faire. Le jour où j'ai une vraie maladie, je vais prendre des antibiotiques et puis je vais régler le problème. Et moi, mon grand-père, ça fait 11 générations que je fais du vin dans ma famille.
Oui, quand même.
Et mon grand-père était un des premiers à faire de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire... On ne met pas sans discernement des produits chimiques dans un champ.
On ne prend pas des antibiotiques de septembre à février.
Comme les Américains, pour être sûr de ne pas tomber malade. Moi, j'ai été choqué la première fois que j'ai été aux États-Unis. J'étais dans une famille, j'avais 12 ans, et tous les matins, ils prenaient des pilules pour être sûr de rien avoir. Ah.
Donc, on ne fait pas ça avec le vin.
Non, surtout
pas. Certains
le
font, mais voilà, ce n'est pas ce qu'on aime, nous non plus. Du coup, 2000 vignerons référencés dans Twill. En fait, j'ai du mal à me rendre compte si c'est beaucoup ou si c'est peu. Ça veut dire qu'il en reste énormément. C'est déjà énorme. Il en reste énormément. C'est un travail de titan.
Tout à fait. Alors après, je pense que justement, on s'adresse quand même à une clientèle, une communauté, à des gens qui ont un intérêt pour le vin. Sinon, on ne va pas sur Twill, on ne télécharge pas une appli comme Twill. Mmh. Et donc, qui recherchent un certain niveau de travail, un certain niveau de qualité. Et c'est vrai que pour ça, ça réduit un petit peu le scope, même si 2000 producteurs, c'est le début d'une longue série, parce qu'on va continuer. Parce que là, on parle de la France. Je pense qu'en France, notre objectif, c'est d'avoir entre 4 et 5 000 producteurs qualitatifs qui vont proposer des histoires et des choses différentes et qui ont une vision. Mais après, il y a le monde entier et ça ne s'arrête pas. Mais c'est un peu comme la musique, ça qui est génial. C'est qu'en plus, on va avoir des périodes. Moi, par exemple, je ne vais pas de Bourgogne il y a 3 ans et maintenant, j'adore ça.
Oui, il y a des modes. Nous, on a fait une émission sur les vins corses et depuis, je bois que du vin corse.
On découvre des choses tout le temps, c'est ça qui est sympa.
Ouais.
On est quand même plutôt, globalement, en ce moment, peut-être que c'est très parisien ce que je vais dire, on est plutôt quand même dans la mode des vins frais, des vins légers, justement, mais un anti. Mais globalement, est-ce que c'est ça ou pas du tout?
Oui, après, il y a des tendances sur le vin nature, le vin vegan, le vin biodynamique, le vin bio.
Ça fait des tags, ça, dans le...
Alors, ça fait des tags, exactement. Et puis après, nous, on essaye quand même d'être assez ludique et d'expliquer les différences. Parce qu'il y a plein de gens qui vont confondre vin bio et vin nature. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de comprendre la philosophie qu'il y a derrière. Et ensuite, je pense que le mouvement dont vous parlez, c'est-à-dire des vins frais et qui révèlent leurs arômes et leurs terroirs, c'est un petit peu le balancier de ce qu'il y a eu pendant 20 ans avec
Parker. On va sentir. C'est l'anti-parkerisation.
Exactement. Et c'est assez normal. Oui.
C'est complètement dans l'air du temps, quoi. On a envie de choses plus naturelles. Ça te parle, ça, Rebecca? C'est ce que tu rencontres tous les jours.
Forcément. Et puis, ce que j'aime bien dans Twill, c'est la logique d'être en circuit court, de vraiment s'affranchir des distributeurs, des grandes surfaces, etc. Parce que votre cible, finalement, voilà, c'est, comme tu disais, c'est des gens qui ont un intérêt pour le vin et qui ont aussi envie de finalement de retrouver une proximité avec le produit. Parce que moi, je sais que là où j'habitais avant, dans un petit village, j'avais la chance d'avoir une cave. Et ben, c'était génial parce que quand on voulait inviter des amis, on pouvait aller voir le caviste, lui dire voilà, on va faire ça à manger, qu'est-ce qu'on pourrait boire, etc. Et donc de pouvoir qu'il nous parle du producteur. Et c'est ça aussi, je pense, qui augmente l'expérience de ce produit du vin. Parce que moi, si je vais juste acheter une bouteille en supermarché, enfin, j'ai pas d'expérience.
Ça recrée du lien quelque part.
C'est ça.
Twill recrée du lien.
Ouais.
Et un lien court en plus.
Ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart de nos clients viennent de nos producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ce n'était pas forcément l'idée. On s'est dit, on va faire un lien technologique. Et en fait, en leur rendant un service qui est de leur fournir une solution logistique, une solution de paiement et un lien direct avec des clients qui aiment leur vin, c'est eux qui vont se faire ambassadeurs de la solution. Et donc, c'est ça qui est assez sympa.
Est-ce que l'appli ou la forme, je connais pas très bien Twill, mais est-ce que ça propose des comme ce qu'on trouve sur internet, hein, vous savez, des fois vous cherchez un produit et puis après vous avez un bandeau qui vous dit le produit équivalent, si vous avez aimé ça, mm-hmm, vous aimerez ceci. Est-ce qu'il y a un lien tiens, ouais, MS20, donc dans nos 2000 il y a aussi cela qui peuvent rentrer en écho avec
tout à fait. Alors En plus, on va encore plus loin puisque nous, à travers l'application, on va récupérer de la data sur les tuiles que vous allez faire, donc la typologie de vin. En général, je ne vais pas tuiler un vin que j'aime pas. Je ne vais pas faire un effort supplémentaire.
Du verbe tuiler, donc.
Voilà. Donc, on va se baser sur cette
data
sur
une tuile de temps en temps.
Pour faire ce que beaucoup appellent de l'intelligence artificielle. Après, on peut ramener ça plutôt à des algorithmes logiques. C'est essayer, en fonction de caractéristiques qui sont plus basées uniquement sur l'appellation, la région et la couleur, de trouver des choses qui peuvent te plaire. Typiquement, tu as aimé un vin en biodynamie de plutôt tel ou tel style, on va essayer de t'amener là-dessus, pas forcément en fonction de la région, mais en fonction du style du vigneron.
Ouais, ça fonctionne un peu comme un Criteo ou d'autres logiciels comme
alors
ça.
C'est très flatteur, hein, parce que Criteo, ils sont très loin dans la logique, mais nous...
C'est un peu l'idée.
L'idée, c'est effectivement ça. Et puis après, il y a beaucoup la recommandation, c'est-à-dire qu'on a pu intégrer un peu de social dans l'application. Et donc, en fonction des gens que je vais suivre... Un peu comme en musique, si j'aime partager des bonnes bouteilles avec lui, il y a des chances que j'aime les bouteilles qu'ils sont en train de déguster.
De proche en proche, ainsi, on crée des circuits, des communautés autour de...
Bah, on s'est rendu compte qu'en fait, notre génération, les millennials, comme on les appelle, se fie beaucoup plus à l'avis de sa communauté. Donc l'avis certifié, c'est pas l'avis Trustpilot de 50 000 personnes, c'est l'avis de gens que je connais, c'est très différent. Beaucoup plus que la note par cœur.
Ah, c'est vrai qu'on a constaté dans les dernières années que effectivement les blogueurs, les influenceurs, réseaux sociaux, les influenceurs étaient plus issus du monde civil entre guillemets que les revues spécialisées et que même en fait des critiques spécialisées suivent ou sont en contact avec des blogueurs pour faire des recos. Et on s'aperçoit en fait que les 20 top blogueurs 20 dans le monde ont plus d'audience qu'un Wine Spectator en consolidé.
Il y a peut-être aussi une question de vocabulaire, parce que sans doute qu'une revue spécialisée dans le vin qui existe depuis, 100 ans, je ne connais pas du tout le secteur, mais la façon de vendre, de décrire un vin va pas être le même que la génération, comme tu disais, des millennials par exemple. Et c'est ça aussi qui peut jouer, je pense.
Ouais, tout à fait. Je pense que les gens ont besoin de se retrouver dans ce qu'on leur présente et dans ce qu'on leur raconte. Même si je vais pas diminuer le rôle des experts, parce que ce qui est sympa dans le vin, c'est que c'est un produit que je peux... découvrir et apprécier et aborder en tant que total amateur sans avoir un socle de base. Et en même temps, plus je m'y intéresse, plus je me rends compte que c'est un produit technique sur lequel il y a plein de choses à apprendre. Et donc le rôle des experts, c'est aussi de ramener un petit peu de ça dans le débat.
On sent bien que ces frontières-là sont en train de bouger. Tu disais fournir une solution logistique aux vignerons, c'est-à-dire que dans la promesse de Twill, on dit c'est le vigneron qui va vous envoyer le vin. Comment ça se passe concrètement? Lui, il le met dans une boîte et il y a quelqu'un de chez vous qui vient le récupérer?
Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, quand un vigneron s'inscrit, on lui fournit des emballages adaptés parce que c'est le genre de truc qu'il n'a pas envie de faire et qu'il n'a pas le temps de faire. Nous, notre philosophie chez Twill, c'est laissons au vigneron le temps de faire du vin et du bon. Et occupons-nous de la partie commercialisation.
Donc en fait, c'est aussi une solution clé en main de vente directe.
Exactement.
Parce que les vignerons, ils ont tous l'habitude d'avoir des gens qui viennent directement au domaine acheter leur vin, donc ça, ils maîtrisent. Ils ont une machine à carte bleue éventuellement pour encaisser et vendre du vin en direct. Par contre, l'expédier, c'est une galère.
Puis surtout, je pense que pour faire de la vente directe, il faut être dans une zone quand même où il y a du passage. Mmh. En Provence, c'est plus facile que quand vous êtes perdu au milieu de la Bourgogne ou ailleurs, ou du Beaujolais par exemple.
En fait, vous faites du Amazon, enfin du fulfillment, mais en plus sympa et en plus spécialisé dans...
C'est la logique.
Amazon pense se lancer dans le vin, sauf erreur de ma part.
Alors ils ont essayé,
ils se lancent partout de toute façon.
Ils ont essayé quand ils sont arrivés en France dans les années 2006. Ils ont arrêté pendant 10 ans, ils ont repris en 2016 et là je crois qu'ils réarrêtent. Parce que la particularité du vin, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne vend pas du vin, ou en tout cas du vin de qualité, comme on vend une machine à laver. Il n'y a pas une grille de spécification. Il faut vendre un peu de rêve, quoi.
Et notamment cette histoire qui te relie au vigneron.
Moi, j'ai juste une question simple. Est-ce qu'il y a un système de rating ou d'avis laissé, vu que les gens marchent par l'avis des autres aussi et savoir le retour d'expérience?
Alors, tout à fait. Mais c'est quelque chose qu'on a mis à la fin. C'est-à-dire que Il y a des applications américaines qui fonctionnent avec le même système de scan où l'essentiel de l'information provient de l'utilisateur. C'est vraiment comme
Vivino par exemple.
Exactement. Nous, l'idée, c'était d'abord le vigneron parle de son vin, présente son vin, présente son domaine, et ensuite il y a la possibilité de noter et puis je peux mettre un commentaire, mais le commentaire il est pour moi et mon réseau.
D'accord.
Parce que on part du principe que j'ai pas les mêmes goûts que tout le monde. Et c'est pas parce que John et Pamela à New York n'ont pas aimé ce vin-là que moi je vais pas l'aimer.
C'est-à-dire que Pamela est difficile un petit peu.
C'est ça.
Elle en boit trop et pas toujours du bon.
Ou Donald et Ivanka aussi.
Tout à fait. Je pensais à eux.
Dernier point sur Twill, vous êtes à un moment assez important, me semble-t-il, de votre histoire. Vous venez de réussir une levée de fonds importante, 1,5 million, c'est ça ?
Exactement.
1,5 million d'euros, ça a fait un peu de papier dans la presse. On sait que c'est un peu le moteur hein, de l'écosystème startup dans son ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir l'idée, il faut avoir la tech, il faut avoir l'énergie, et puis à un moment, il y a des investisseurs qui rentrent et qui mettent du carburant dans la machine pour essayer de franchir des paliers. Alors, comment ça s'est passé pour vous, cette première étape qui vous amène justement à cette levée de fonds réussie, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, toutes les startups
n'ont pas c'est assez compliqué.
1,5 million. Certaines sont revendues, comme le petit ballon. Bon, vous intégrez un peu un financement. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Quel est le projet, quel est le plan pour les 2 ans, 5 ans à venir?
Bah, le plan, il est assez simple. C'est qu'on est sur un marché hyper concurrentiel. Et on a réussi à trouver des gens qui croient dans notre vision et qui croient surtout que demain les producteurs de qualité vont maîtriser leur distribution et que c'est la relation privilégiée qu'on va cultiver avec eux qui permettra de développer un marché et du commerce autour de ça. Et c'est comme ça qu'ils sont venus là. Et nous aujourd'hui on va chercher à grandir. Donc grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire connaître. Donc
un peu de communication,
de la communication, du marketing, des choses comme ça, et puis continuer à développer notre outil au service des producteurs pour recruter davantage de producteurs et les faire adhérer à notre plateforme.
Sur les 2000 aujourd'hui, quelle est la part des Français?
Aujourd'hui c'est 95% de Français.
Les prochains territoires, ça serait
quoi? On bosse avec des importateurs et les prochains territoires c'est l'Italie et l'Espagne. Ouais. Pourquoi ? L'Italie en premier parce que c'est un territoire viticole qui ressemble beaucoup au territoire français, très morcelé, donc passionnant et très intéressant.
Avec des vins magnifiques.
Voilà, et puis en plus une culture viticole assez proche de la culture française. Et puis ensuite l'Espagne parce que c'est un gros producteur et ils ont aussi une longue tradition du vin.
Ok, bah on va suivre ça. Les concurrents directs de Twill, c'est tous les marchands de vin sur Internet ou...
Alors oui,
vous êtes quand même ciblés.
Mais non, les concurrents directs, j'en citerai un principal qui est Vivino, qui est un acteur américain basé à San Francisco et qui a, quand nous on a levé 1,5 million, a levé 20 millions, donc ils sont dans cette logique
d'autres
américaine.
C'est sûr qu'ils fassent plus, ils sont.
Mais,
genre quoi.
Voilà. Non, et puis c'est pas la même approche. C'est pas la même philosophie et donc je pense que voilà, on va essayer de faire exister un acteur français.
Vivino, c'est probablement l'application la plus présente dans les smartphones des œnophiles du monde entier.
Tout à fait. Je crois qu'ils ont 13 millions de téléchargements, quelque chose comme ça.
Et Twill, ce serait quoi ?
100 000. Ouais,
c'est le début.
C'est le début. Et puis en fait, on va partir de la qualité.
Ouais.
Pour essayer de se faire connaître, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de partir de la quantité.
On est sur 100 000 1 parce que je viens de la télécharger.
Ah,
100 000 2, je l'ai téléchargé aussi.
Merci, Rebecca.
Alors, justement, j'ai une question très rapidement, très pratico-pratique. Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il faut acheter minimum 6 bouteilles ou un carton de 12? Comment ça marche?
Super question, c'est le vigneron qui fixe le minimum.
D'accord, ok.
Et ce qui est sympa sur Twill, c'est que comme on disrupte la chaîne, il y a des intermédiaires en moins, le vigneron gagne en moyenne 35% de marge supplémentaire voilà. Et donc il finance les frais de port à partir de 6 bouteilles. Donc quand vous commandez 6 bouteilles chez le vigneron, la livraison est offerte.
Ok.
Et justement, as-tu eu des réactions assez vives de la part de gens qui étaient présents dans la chaîne et à qui tu coupais un peu l'herbe sous le pied? Est-ce que tu as vu des... comment c'est accueilli généralement dans la chaîne de distribution?
Il y en a toujours, parce que à chaque fois qu'on voit apparaître un nouvel acteur, on sent une menace. Souvent, quand on a confiance en ce qu'on propose, au service qu'on apporte, on réagit pas parce qu'on est confiant. Et puis ceux qui font peut-être un service de moins bonne qualité, c'est souvent ceux qu'on entend le plus. La réalité, c'est que c'est un acte d'achat différent, par exemple, des cavistes. Le caviste amène un conseil, amène un acte d'achat immédiat. Donc nous, notre concurrent principal, ça va plutôt être la grande distribution. Et quelque part, il y a une situation d'oligopole et on est là pour faire bouger les lignes, quoi.
C'est là qu'est le plus gros du gâteau, finalement. C'est en prenant des parts de marché à l'hyper-distribution, notamment, qui vend tellement de vin alors qu'il y a si peu de conseils, si peu de sélection.
Exactement. Et on apporte une forme de transparence. Et la grosse différence, c'est que c'est le producteur qui fixe son prix sur Twill. Donc il ne va pas y avoir un jeu de cavalier seul. Ils vont essayer d'avoir une politique de prix cohérente entre leurs différents acteurs de distribution. Alors que le problème souvent de la grande distribution, c'est qu'ils vont acheter, ils vont avoir un pouvoir de négociation suffisamment fort pour aller péter les prix derrière. Et donc derrière, pour un caviste ou même pour des acteurs comme nous, c'est plus compliqué.
Ok. Tu avais une question, Patrice ?
Non, non.
Rebecca, Herman ?
Non, j'ai tout compris.
T'as téléchargé en plus.
En plus de ça, donc si ça peut faire un peu...
Alors après, ça devient un jeu.
J'ai gagné ma soirée.
Dès qu'on prend une bouteille, on a envie de la twiller, du coup, de la scanner.
Moi,
j'avoue, honnêtement, j'avais la seule appli vin que j'avais dans mon téléphone, c'était Vivino. Maintenant, j'en ai deux, c'est Vivino et Twill, donc je vais...
Mais blague à part, les consommateurs reprennent vachement le dessus sur ce qu'ils consomment par le smartphone, avec tout ce qui est Yuka sur la nourriture, avec le contenant, enfin avec le vin.
Qu'est-ce que je mange ?
L'appareil photo dans le smartphone sert beaucoup plus de choses que juste se prendre cette fille et
ça. C'est le bon côté de la technologie, c'est que ça amène une forme de transparence.
Ouais, ça.
On va parler des autres aspects de la wine tech. J'avais noté un petit peu, parce que ça me semble être un rayon important, on n'a pas de représentant ici, donc on passera peut-être plus rapidement, c'est ce qui peut être très utile pour le nophile, le consommateur de vin, c'est ces logiciels qui vous aident à gérer votre cave. Voilà. Alors il y a, j'ai quelques noms en tête, il y a Cavizy, qui fait aussi partie de la wine tech, je crois d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Qui est un logiciel qui permet de rentrer ses bouteilles au fur et à mesure dans sa cave et qui va vous dire
quand faut la boire.
Quand faut la boire, si je prépare du poulet au mori, qu'est-ce que je dois boire. Il y a ce genre d'innovation. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de ce genre d'outils. Toi qui as une cave de.
Moi, je ne suis pas utilisateur de ce genre d'outils. Mais comme
toi, c'est tableau Excel, toi.
Ouais, c'est plutôt tableau Excel et PowerPoint. Mais comme tu viens de parler de poulet au morille et de quel vin on boit, ben moi, je pense qu'on boit du vin jaune. Et je rappelle à nos auditeurs de La Terre à Boire qu'il faut écouter le dernier épisode de La Terre à Boire sur le vin jaune.
Alors, ce ne sera pas le dernier le jour où on diffusera cette hors-série, là, mais c'est le numéro 21. Ça, tu peux le dire. C'est celui qui était consacré au vin jaune, le dernier épisode de la série sur le Jura.
Non, moi j'utilise pas trop la gestion de cave, je crois peut-être que je le fasse. Pour l'instant, je la gère avec un petit cahier dans ma tête, à l'ancienne. Oui. Parce que j'aime y aller, j'aime ce contact avec la cave que je trouve que je déprends un petit peu avec l'objet connecté. Donc, j'aime bien le contact physique. Et après, oui, alors je sais pas si ça fait partie de vraiment de la wine tech, mais tout ce qui est des accords mévins, parce que malgré tout, je crois que c'est qu'on connaît, mais on vérifie toujours, mais bon, ça, Internet le fait.
Il y a des sites, ouais, il y a pas mal de sites qui permettent, il y a Planète, Plan Net. Planète vin, voilà, qui permet voilà ce que je veux manger, quel est le vin.
Non, c'est un super indicateur, mais pour moi, ce qui est sympa aussi, c'est de faire des découvertes. Et parfois, on va tomber sur une bouteille avec un plat qu'on n'aurait pas forcément imaginé ou qu'on nous aurait recommandé, et on va tomber sur quelque chose de sympa. Ce qui est sympa dans le vin, c'est la surprise aussi.
C'est ça, c'est la vérité du vin, c'est d'être ouvert et de savoir qu'on ne sait rien, comme on dit.
Sur la gestion de cave, j'ai vu qu'il y avait une boîte qui proposait en fait d'externaliser sa cave pour les gens qui ne peuvent pas avoir une cave. Je ne sais pas comment ça fonctionne en termes de déploiement sur les territoires, si ce sont les cavistes qui deviennent hébergeurs de caves de particuliers.
Monsieur Philippe, il a trois entrepôts à côté de Paris. Là,
il y a quelques caves en fait, ou cavistes professionnels comme les caves Legrand qui proposent des services d'hébergement de cave où il y a des crayères ici les Molineaux. Qui sont très profondes et très grandes et
donc
qui permettent de stocker
pour conserver du vin.
Idéal pour stocker du vin. Ça s'adresse en général à des cavistes, enfin à des pros comme des grands restaurants, des tables étoilées. Il y a aussi une clientèle particulière.
Mais il faut réfléchir à quelle bouteille on veut boire un peu en avance.
Un niveau de nophilie.
C'est-à-dire que là, pour en utiliser moi-même les services, ça demande un peu de réflexion et d'anticipation parce que.
Il faut aller chercher son vin.
Il faut aller chercher son vin ou alors il faut appeler quelques jours en avance pour dire je viens chercher du vin ou est-ce que vous pouvez me livrer les X bouteilles dont j'ai besoin pour recevoir mes invités. mais effectivement à Paris les vrais appartements ou immeubles avec des vraies caves c'est des denrées rares, donc effectivement il y a besoin de type de prestations de ce type là sachant qu'aujourd'hui les gens qui possèdent des vraies caves, il y en a pas beaucoup.
Il faudrait faire des caves à vin en cloud, un peu voilà.
Dématérialiser. Voilà, vraiment. Mais voilà la bonne solution. Ouais,
moi, je donne des petits tips comme ça. Après, vous prenez ou prenez pas.
Wine Tech, c'est gratos. Francie, pim pam book is back.
Exactement.
Pim pam boom is back.
Non, c'est intéressant. Dématérialiser le vin, juste le souvenir du vin, ça devrait suffire en fait finalement.
Oui, voilà, un petit rappel, peut-être par une photo. Voilà, une photo, ouais.
Un parfum.
Ouais.
Sur cette histoire de d'outils logiciels. Bon, vu de l'extérieur, enfin par rapport à ce business déjà existant de la distribution, on se dit que ça va être quand même beaucoup plus difficile en fait de générer du revenu et d'avoir des plans de développement forts pour des boîtes qui proposent à des œnophiles qui sont certes assez nombreux, mais de gérer leur cave. Moi, je trouve le modèle économique est moins évident. Il va être beaucoup plus difficile à aller chercher, à voir comment ils se rémunèrent en fait, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de transaction.
Bah on paye non, un,
c'est quoi le modèle Je pense que le modèle, il vient justement. Pour moi, la WineTech, c'est aujourd'hui un ensemble assez disparate. Et celui qui aura les moyens d'en faire un ensemble cohérent aura peut-être un moyen de le rentabiliser. C'est-à-dire que l'outil de gestion de cave, c'est génial. Je vais le payer si jamais j'ai une cave de 4000 bouteilles, mais c'est le cas d'une très petite minorité. Et puis en plus, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont, on va dire, annexes, parce que le vrai amateur de vin, il sait où sont les choses et il sait ce qu'il a envie de boire. Mais pour moi, demain, celui qui connecte Cavizy, sa cave, pour le coup, il peut se brancher sur un truc comme Twill et dire, voilà, moi, je veux recommander ça. Et c'est peut-être un moyen pour lui de l'intégrer à un écosystème complet.
Je ne suis pas un expert en prospective. Je regarde Rebecca Armstrong en disant ça, mais... Il me semble que la logique, c'est qu'effectivement, ce soit des acteurs comme vous, comme Vivino, qui sont des distributeurs, qui intègrent cette fonctionnalité, somme toute pas si compliquée, de gestion de cave. D'ailleurs, je crois qu'on peut, on rentre des vins dans sa cave, dans Twin ou dans Vivino, et qu'au fond, des gens qui sont spécialisés uniquement là-dessus, ça va être un peu court, parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur un business réel sur lequel tu peux prendre une com sur une transaction. S'il y a une transaction, il y a de la rémunération. S'il n'y a pas de transaction... Aller chercher des communautés massives de gens qui vont utiliser un logiciel pour gérer leur cave, ça me paraît plus hasardeux. Puis,
en termes toujours d'expérience globale, moi j'imagine assez que si j'achète des bouteilles de vin via Twill, et ben il y a un moment, quand je vais partir en vacances, je vais me dire, peut-être qu'avec l'appli, je vais pouvoir quasiment avoir un week-end clé en main, enfin pour parler, parce que tu évoquais aussi en introduction, le no-tourisme. Et il y a des connexions aussi comme ça qui se font pour encore enrichir l'expérience, le lien avec le producteur.
C'est très vrai, en fait, on a même commencé, puisqu'il y a une petite boîte qui s'appelle Wine Sitting, qui est basée à Bordeaux, c'est trois filles de 25-27 ans, ont monté ça, et en fait on a un petit bouton sur nos pages producteurs qu'on a en commun qui permet, en plus d'acheter la caisse de 6 bouteilles, d'aller passer une nuit au domaine, parce que ce qui est sympa, le jour où on a découvert ce que faisait le vigneron, c'est d'aller le rencontrer en personne, et puis il y a vachement de liens entre les deux.
C'est un tel plaisir, et c'est un truc que tous les amateurs de vin vont dire, ceux qui l'ont fait en tout cas, aller rencontrer le vigneron dans son chai. C'est les vignerons qui donnent la possibilité de prendre une nuit sur place et de se réveiller au milieu des vignes, de lier la dégustation et le moment de détente. C'est quasiment toujours des endroits assez magnifiques. Magique, on est dans la nature, on est dans les vignes. En général, c'est des coins où il y a du soleil. Donc c'est assez naturel et ça parle à tous les amateurs. Si vous voulez bien, sur le troisième pan de cette réflexion, plutôt les objets. Alors là, on revient sur un domaine qui, moi, me paraît un peu plus consistant aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à vendre, il y a un produit et qui va intéresser des gens. Je me tourne vers toi, Thomas, avec Aven. Donc, vous avez inventé ce produit qui permet d'aérer les vins. C'est quoi aujourd'hui le plan? Vous avez eu un certain succès au CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, qui est en gros la grand-messe de la technologie mondiale. Et on a entendu parler pas mal d'Aven à ce moment-là. Il y a eu des super papiers dans des journaux américains.
Très beaux papiers dans les journaux américains, français aussi, avec France 24, BFM. On a eu deux awards, notamment au CES, notamment l'Innovation Awards. Donc c'est bien. La suite, ça arrive très très vite en fait, puisque là le produit en fait n'était pas encore en vente jusqu'à aujourd'hui.
C'était un proto quoi.
C'était en phase de prototype tout à fait. Et on arrive à la fin de la phase de prototype et on lance les préventes courant mars en fait via la plateforme Indiegogo, la plateforme de crowdfunding en fait.
D'accord.
Et avec pour objectif de récolter 50 000 euros ce sera.
Vous êtes en amont par rapport à Twill dont on disait, il y a des étapes dans la construction de ces business de start-up. Vous êtes en amont, vous avez le produit, il est stable, il est performant. Vous avez réussi à avoir pas mal de presse et d'écho autour. Maintenant, on va financer une étape de développement et puis on va avancer comme ça par étapes.
C'est ça, on va avancer par étapes. On va déjà essayer de livrer les premières séries au mois de juillet et après le gros des
clair, il y a déjà un carnet de commandes.
On a déjà un cadre de commande de part de professionnels.
Voilà, c'est que la question que j'allais te poser, c'est plutôt un produit B2B ou B2C ?
Alors on est les deux, on est B2B2C.
Je m'attendais à cette réponse.
Forcément. Une partie ambassadeur qui sera du coup tout ce qui est caviste, hôtellerie, restaurant. Ouais. Donc là on a déjà des commandes, déjà trouvé des ambassadeurs. Et après on a une partie qui serait une partie grand public, la partie à laquelle s'adresse notamment cette campagne de crowdfunding, de pré-vente qu'on ouvre pour en fait un de deux publics différents, mais qu'on espère toucher tous les deux pour...
Il y a une question que je me suis posée en lisant, justement, quand on parlait de vous, là, au moment du CES. Je me suis dit, est-ce que French Wine Tech, est-ce que ça apporte quelque chose d'être français et d'être dans la wine tech quand on est face à ces... aux Américains, est-ce qu'on nous regarde comme, bah oui, c'est normal, vous êtes français, donc vous êtes pointu dans le vin, ou c'est fini, ces images-là, il y a... que les Français qui les ont encore en tête.
Ah non, c'est un véritable atout, je pense.
Non, c'est un atout.
Si je prends l'exemple du CES, rien ne serait-ce que dans le vin, forcément, c'est tout ce qui attire, que ce soit le public, les journalistes.
Ah, les Américains sont très amateurs de vin.
Hein. Très amateurs de vin, donc ça attire forcément. Et je pense que ce côté français dans le vin, ça attire d'autant plus, parce que c'est quelque chose qui est très ancré dans notre patrimoine national, aussi bien international, que les Américains sont séduits par ce côté. Tiens, c'est une boîte dans le vin, tiens, en plus, c'est des Français dans le vin. Forcément,
il y a une priorité. Cette magie marche encore, en fait.
T'achètes pas une machine-outil en France, tu l'achètes en Allemagne, t'achètes pas un robot en Espagne, tu l'achètes au Japon, dans l'imaginaire.
Est-ce qu'au CES, justement, pour garder cette French touch, fallait, quand vous parliez anglais avec tes équipes, fallait garder un petit accent un peu français pour
la baguette sous le bras sur...
Alors, on a un accent de cette façon, donc on n'avait pas besoin de le garder, il était là. On n'a pas essayé de le gommer, on a plutôt construit avec. Et j'ai pas l'impression que vous êtes desservi, j'ai pas vu de commentaires négatifs ni positifs d'ailleurs sur les diverses vidéos qu'on a pu avoir.
Alors peut-être que j'espère que je vais rien dévoiler, mais il y a déjà un prix là de vente du produit ou c'est encore top secret?
Non, il y a un prix. Il y a un prix, donc les.
Je le dirai pas.
L'aérateur.
Il y en a un.
Il est fixé.
On l'a en tête, mais.
En fait, c'est la pim pam poum qui vous autorise pas encore à donner le prix, c'est peut-être ça.
C'est ça.
Je suis uniquement là pour ça, merci de pas dévoiler le.
Non, alors prix. les premières séries de la campagne d'Indiegogo, qui seront les Ultra Early Bird, donc c'était limité, donc seront autour de 100 euros. La deuxième vague sera autour de 50 et le prix final sera à 200.
À 200 euros quand même.
200 euros pièce. Avec l'application gratuite, bien sûr.
Ah ouais, ça va.
Alors là, en même temps qu'on parle, je suis sur le site www.aven.paris et donc on voit l'objet.
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer en fait comment il fonctionne ? Parce qu'en fait, ça ressemble
à un
petit objet.
Est-ce que tu peux nous le décrire ? Ouais.
Oui, voilà. Donc en fait, on voit une bouteille de vin.
Physiquement, ça ressemble en fait à l'embout de ma flûte que j'avais pour mes cours de musique.
Alors c'est la deuxième option.
Ça fait pas encore la musique, mais peut-être.
D'où les 200 euros. Hein.
Et ça ressemble à un tout petit objet qui se pose sur la tête de la bouteille et on voit une gradation avec des informations de température et de temps.
Alors en fait, techniquement, pour être simple, c'est un verseur. Donc c'est un verseur que vous placez sur la bouteille avec un écran tactile pour régler en fait l'aération de 0 à 24 heures. Et une fois que vous avez placé l'objet sur la bouteille avec votre application sur votre smartphone, vous scannez l'étiquette de la bouteille de vin et nous, à travers un algorithme, en fait, on vous propose une aération optimale de dégustation qui est une proposition, c'est-à-dire qu'en fait on considère un peu comme Twill, on considère que le vin est avant tout une histoire de goût et que chacun a des goûts différents et donc il n'y a pas d'aération qui est l'aération unique. Chacun peut aérer selon ses goûts uniques. Donc en fait, une fois que nous on propose cette aération, vous êtes libre de l'appliquer sur l'écran tactile, donc les 6h, 8h, 12h ou jusqu'à 24h qu'on peut vous proposer, ou de mettre celle que vous préférez.
Et vraiment, c'est l'équivalent d'avoir laissé le vin en carafe pendant 3 heures.
En bouteille.
Si tu en bouteille, ouais. De l'avoir ouvert et laissé ouvert. Mais c'est pas la même chose que carafé alors.
Non.
D'accord.
Il y a une légère différence entre le carafage et.
Bah, c'est une aération aussi le carafage.
Et du coup, ça gère l'obturation, c'est ça? Ça gère l'obturation, enfin l'air, comment l'objet.
Y a un système en fait d'augmentation de la surface de contact entre le vin et l'oxygène.
D'accord.
En fait, au moment où le vin traverse l'objet pour arriver dans le verre.
C'est technologique.
C'est l'idée.
Et en plus, c'est plutôt beau, je trouve, comme merci. Objet.
J'adorais ma flûte.
Ça se porte en pendentif aussi, donc c'est vraiment le triple.
Exactement.
La triple utilité. Ouais. On peut souffler dedans, et on peut boire du vin avec.
C'est gratos, hein, je remineure pas les conseils.
Ça fait partie du forfait.
Sur ce segment des objets liés au vin, alors il y a d'autres propositions. Il y a. Espèce de. C'est Coravin qui fait ça? Non.
Coravin est pour ouvrir la bouteille sans l'ouvrir.
Ouais,
en fait,
c'est ça. Coravin, c'est un verre de vin sans l'ouvrir.
C'est la conservation, je crois.
Ça me fascine. Comment c'est possible?
Alors, je suis pas expert. Je crois qu'il y a un système de libération de cire au moment où, avec une aiguille qui perce le bouchon.
C'est une aiguille, et en fait, il remplace l'air libéré par le vin que tu verses dans ton verre par un gaz alimentaire. Et donc, du coup, c'est comme si tu n'avais pas ouvert la bouteille.
Et ça rebouche ensuite le petit trou.
C'est la magie du liège, c'est que c'est une matière qui va absorber l'aiguille et quand elle va ressortir, qui va reprendre sa place.
Mais par contre, on n'entend pas le fameux pop. Alors, je ne sais pas le faire dans ma joue. Mais
ça, c'est super triste.
Du truc, quoi.
Ça sera un bruit de synthèse qui s'est intégré aux objets connectés.
C'est un peu pour les gens qui boivent seuls.
Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que ça a l'air contradictoire avec le fait d'ouvrir une bonne bouteille entre amis. Ah, je m'en sers, mais sans l'ouvrir.
Ouais,
c'est formidable, mais il est où le plaisir?
C'est ouais, pas la c'est... même consommation.
C'est pas ça, ou c'est boire des grands crus rares qui sont des anciens essentiels et qu'on n'a pas envie non plus de gâcher si on va pas le boire en entier. Mmh. Donc on est un couple, par exemple, on veut boire juste un verre de ce... C'est grand cru pour le savourer plus souvent, finalement.
Oui, c'est ça.
Après, je sais pas si on veut aborder ce thème-là, mais il y a tout ce dont on a parlé là, ça continue à aller dans le sens du mythe et de la sacralisation du vin. Après, il y a des startups qui cassent les codes.
Oui, les
des
canettes.
Des startups, les canettes, typiquement. Alors, ouais. Alors là, est-ce qu'on va jusque là? Mais il y a un certain nombre de startups qui vendent du vin en canette. Alors
effectivement,
là,
on en avait pas parlé.
Côté un peu mythologique ou.
À partir du moment où tu respectes pas le produit à l'intérieur, il y a pas de problème.
Dans leur argumentaire, ils disent que justement la canette, ça préserve.
Je crois que c'est Winestar. Winestar qui vend le.
Donc toi, tu y crois pas?
Non, pour moi tout dépend du produit et de la consommation. En fait, pour moi, après c'est peut-être mon côté fils de vigneron, mais le vin c'est un art de vivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'en tant que Français on est remarqué. Et le liège est un produit qui permet de laisser le vin respirer, donc évoluer dans le temps. Et la canette, c'est vraiment la consommation express. C'est pas mon truc.
J'ai l'impression qu'on pourra expliquer.
Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi.
Après, c'est pour être un peu provocateur là-dessus. Donc, il y a des qui veulent casser les codes. Jusqu'où peut-on, entre guillemets, sans donner une moralisation, mais casser les codes, c'est tant qu'on respecte le vin dans son intégrité. Après, d'un autre côté.
En tant le cubiténaire.
Ouais, voilà.
Après,
d'un autre côté, apparemment, la canette est très bien pour conserver, par exemple, le parfum. Le produit aluminium
en fait,
très bien pour conserver
moi le meilleur exemple c'est le coca. Coca en bouteille est bien meilleur que le coca en canette parce qu'il n'a pas le goût métallique.
Exactement. Par contre Winestar effectivement est allé chercher, juste pour compléter allé chercher le fournisseur
d'emballage
de coca pour faire son produit.
J'ai l'impression qu'avec ça en fait on touche à un truc qui est un peu sacré, en tout cas pour nous Européens, nous Français, que peut-être sur des territoires, parce que je crois que c'est ce que j'ai lu un petit peu aussi sur les gens qui proposent ces nouveaux contenants.
Oui, ça marche pas mal en Asie, je crois.
Il fallait attaquer l'Asie parce qu'il y a moins de sacralisation.
On est attaché au flacon en France.
Du vin. Oui, j'ai l'impression que ça fait quand même partie du truc, quoi, de la cérémonie du vin, etc. Et du coup, moi j'ai du mal à croire à ces innovations dans le contenant. Ouvrir un vin en canette, il y a des tubes, il y a une sorte de.
Ça marche bien pour les vins petits en même temps.
Ouais, il y a aussi le truc là, le Nespresso du vin. J'arrive pas.
En fait, c'est toujours le même débat, mais on a eu le même débat à une époque sur les capsules closes.
Sur le liège, qui sont
largement usités en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou dans les pays anglophones.
On décapsule sa bouteille.
Et en fait, bon, c'est un truc. On dévisse. On y viendra un jour en France, je pense, parce qu'on on va faire de plus en plus attention à la forêt et aux choses comme ça, peut-être.
Mais c'est surtout que le liège est moins sûr comme bouchon.
Ça dépend de la qualité des lièges. En fait, la raison pour laquelle les Australiens sont passés notamment au ce qu'on appelle le screw cap, c'est parce que à une époque, dans les années 70-80, on leur allouait en fait le liège de moindre qualité qui venait du Portugal. Les Français étant toujours très bien servis en termes de qualité de liège, donc ils ont dû trouver une autre solution pour mieux conserver leur vin. Et c'est vrai que moi, pour avoir passé du temps en Australie, j'ai bu des très bons vins australiens qui étaient en screw cap, donc avec les capsules. Et psychologiquement, moi, ça me posait pas trop de problèmes. Et pourtant, étant
moi non plus, je viens d'une région où on fait du rosé, et typiquement le screw cap pour des vins de consommation rapide, j'ai aucun problème, et c'est même mieux que le liège. Par contre, en Australie, et j'y étais en décembre puisque nos investisseurs sont en partie australiens, tous les vieux millésimes des grands vignobles restent avec des bouchons de liège, parce que quand on veut faire vieillir un vin, c'est très compliqué de ne pas avoir une micro-oxygénation. Et le problème du métal ou du bouchon plastique, c'est que ça passe
pas. Michel Roland sort de ce corps.
Il n'y a rien qui sort. Merci beaucoup. On a fait un petit tour. Alors évidemment, le tour complet, c'est difficile.
C'est
on va
pas possible,
pas citer toutes les startups. Peut-être que Pim Pam Poum a des choses à ajouter sur le sujet, des questions à poser.
Oui, mais nous on balance pas nos prix comme ça dans un podcast ou nos idées, ça restera confidentiel, ça fera peut-être l'objet d'un épisode spécial.
D'accord, l'ensemble des conseils de Pim Pam Poum à destination de la WineTech par exemple.
Ça, exactement.
On va se garder ça pour
un auditoire en tout cas.
On va se garder ça pour une prochaine fois. Je vous dis un grand merci à tous les trois. Erwan de Barry, fondateur de Twill, Rebecca Armstrong, une podcasteuse comme on les aime et comme on les écoute. Thomas Chevaux, merci aussi d'être venu représenter Aven dans cette émission.
Merci.
On va suivre un petit peu l'évolution de cette économie du vin.
Et bon vent à Aven.
Nouvelle économie.
Bon vent à Aven.
Oui, bon vent à Aven. On va observer un petit peu l'arrivée de ce produit. On va voir si les grands restaurants s'en emparent, par exemple. Et puis si
c'est grand public, ça nous va aussi.
S'ils rentrent dans le quotidien des
public,
Français.
On est ouvert au sujet.
En tout cas, merci à vous. C'était passionnant de parler un peu de cette nouvelle économie du vin. C'était la fin donc de ce deuxième hors-série de la Terre à Boire. On va retrouver notre petit chemin dès la semaine prochaine. On sera à nouveau sur les routes de France. On est en studio, on n'est pas vraiment sur les routes, mais on ne se prive pas d'appeler les vignerons, d'appeler les blogueurs, d'appeler les amateurs de vin partout en France. On va continuer ce tour et puis on refera sûrement des émissions thématiques autour du vin. Je remercie également Stéphane Leture à la technique qui nous a fait l'ingé son pour ces deux hors-série, celui sur le cinéma, celui sur le vin. Stéphane, c'est évidemment dans ton rad, le podcast qu'on écoute pour découvrir les bistrots. C'est lui qui fait d'ailleurs le son dans ton rad et qui fait cette prouesse quotidienne d'avoir un super son dans un podcast enregistré dans des bars sûrs, bondés, avec des gens qui crient. Ce qui est un peu le cas quand même d'aider la frite ce soir, parce que là il y a un plateau.
Mais les podcasteurs sont particulièrement bruyants.
Ils sont un peu bruyants. Je crois qu'il y a des gens du
podcasteur.
Il y a Omar du podcasteur qui nous fait signe.
Les gens de Goom aussi. Les gens de Goom.
C'est ça, c'est le podcasteur, c'est les mêmes. Il y a Thomas Crayon même qui pointe le bout de son nez. On va peut-être faire un petit hors-série du hors-série. On se retrouve très très bientôt. On vous embrasse. À très vite. Au revoir, messieurs dames.
Merci. Au revoir.
Salut.
Salut.